L'émission L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre. Dodécaphonique. Mise en scène. Production Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Et porter mes sacs, qui étaient très lourds. Et François leur amène ce qui a sorti de la pièce. Ouvre la porte. Jean-Yves sort, lui donne un petit baiser sur la joue et lui fait « Salut !» François le voit rentrer dans son appartement. François ferme la porte de son appartement et se dit que Jean-Yves est un brave garçon. Il est content d'avoir ce jeune homme comme voisin de palier. Une fois, il avait eu une vieille femme tout à fait désagréable. Là, il est satisfait. Deux jours plus tard, lorsqu'il sort de son appartement, il voit Jean-Yves entrer dans le sien. Jean-Yves lui dit, « Tu veux voir quelque chose ? 5 minutes ?» François lui dit, « Oui, je veux bien, merci. » Jean-Yves le fait entrer dans son appartement. Il y a un petit couloir étroit avec un porte-manteau rempli de vêtements et sous le porte-manteau, il y a des chaussures en vrac. Une porte à droite qui donne à la cuisine, une porte en face de l'entrée qui donne au séjour et une porte en face de la cuisine qui donne à la chambre. C'est sombre. La tapisserie et les peintures datent d'au moins 40 ans. Oui, d'au moins 40 ans. Le séjour est une grande pièce avec 2 fenêtres sans rideaux. Les meubles sont disparates. Il y a un coin salon et un coin bureau. Malgré tout, c'est agréable. C'est pauvre, mais ça fait très confortable. On se sent bien dans cet appartement. Pourtant, il n'y a rien d'extraordinaire, même c'est très ordinaire, tout à fait ordinaire, mais on s'y sent bien, un peu en dehors du monde. Jean-Yves lui dit, « Tu vois, c'est chez moi, c'est pas formidable, mais j'aime bien. Je me sens en dehors du monde, je me sens bien ici. » François lui dit, « Oui, on se sent bien ici, c'est calme. C'est chaud même. » Jean-Yves le mène à un fauteuil qui est recouvert d'un tissu beige et lui dit de s'asseoir. François s'assoit. Devant lui se trouve une table basse avec des petits objets, genre nounours, etc. Jean-Yves lui demande ce qu'il désire boire. François lui dit, « J'aimerais, si c'est possible, un café. Merci. » « Oui, bien sûr. » Et Jean-Yves le laisse dans la pièce. François se dit que Jean-Yves a de la chance d'avoir un appartement aussi grand. Ça lui manque d'avoir de la place. Il pourrait faire comme Jean-Yves, le décorer un peu dans ce genre-là. Comme il n'a pas beaucoup d'argent, il pourrait aller chez Emmaüs acheter des meubles. Jean-Yves revient avec un plateau et le café. Dépose le plateau sur la table et s'assoit près de François, puis fait le service. Merci. Ils boivent une gorgée. Il est fort et très bon, dit François. Jean-Yves lui dit, tu aurais pu prendre du sucre si tu voulais ou du lait. Non, c'est très bien comme ça. Ils boivent en silence. Jean-Yves demande. Le moral va mieux? Pas vraiment, non. Enfin, il faut bien faire avec, Jean-Yves lui dit. Faut sortir un peu, voir du monde. Oui, voir du monde, François lui dit. De temps en temps, je sors, j'ai un ami, nous allons boire un verre, il est gentil. Je lui dis mes peines et il me comprend. Jean-Yves est triste qu'il ait un ami en plus de lui. Tu croyais que j'étais son seul ami? François lui dit, toi c'est pas la même chose. Comment dire? Tu es le vrai parce que je n'ai pas à faire attention. Je peux être moi même avec toi. Tu comprends, lui, c'est un médecin. Je ne peux pas parler la même chose avec lui. Je ne peux pas vraiment être moi-même. Ce n'est pas du tout du même monde où il vit. Et puis toi, c'est plus simple et plus vrai avec toi. Merci. François se lève et lui dit, faut que j'y aille. Je dois aller garder un enfant. Merci. Et Jean-Yves le raccompagne jusqu'à la sortie de l'appartement. Avant qu'il s'en aille, il lui dit « Si tu veux, on pourrait sortir ensemble de temps en temps. Je t'amènerai dans des boîtes où on s'amuse bien. » François lui dit « Je veux bien sortir avec toi, mais ne m'amène pas dans des endroits. » « Tu vois ce que je veux dire ?» Jean-Yves, heureux, lui dit « Non, je te le promets. » Et lui fait la bise sur la joue. Il se voit souvent et Jean-Yves lui propose de sortir avec lui. Ils vont dans des boîtes normales, au cinéma, au restaurant. François trouve Jean-Yves gentil. Il se dit que le pauvre doit être amoureux de lui. Oui, le pauvre doit être amoureux de lui. Lorsqu'il est avec Jean-Yves, il se sent bien, mais lorsqu'il est seul, là, ça ne va pas. Il pense constamment à son petit et à se venger de Marie. Il revoit aussi Adrien. Il leur arrive d'aller au restaurant ensemble et au cinéma. En marchant dans les rues désertes, Adrien dit à François, je rêve, c'est d'avoir une clinique à moi, mais je n'ai pas d'argent. Pourtant, j'ai un oncle qui est immensément riche, mais il ne veut me donner. Il donne tout à ma sœur, parce qu'il ne m'aime pas. C'est injuste, il faudrait faire quelque chose. Ma sœur est mariée, elle est riche, elle attend un enfant. Je rêve d'hériter de mon oncle, parce que ma sœur et son mari pourraient décéder. Tu vois, toi et moi, nous avons le même problème. Oui, je veux hériter de mon oncle, et pour cela, il faut que ma sœur et son mari puissent décéder. François écoute et ne dit rien. Il se dit qu'avec des si, on peut changer le monde. Mais que la réalité, c'est autre chose. Lui aussi, avec des si, il peut avoir son enfant. Puis Adrien continue à parler. J'ai une idée un peu folle. C'est que si toi, tu pouvais changer d'identité pour enlever ton enfant et partir loin d'ici. François lui dit, ce n'est pas possible de changer d'identité comme ça. Adrien lui dit, bien sûr que c'est possible. Il suffit simplement de demander l'acte de naissance d'une personne qui vient de mourir. Et en ayant cet acte de naissance, on peut changer de nom et même faire la même chose pour son enfant. François lui dit, c'est impossible de trouver des personnes qui viennent de mourir pour prendre leur identité. Adrien lui dit, il suffit de donner un coup de pouce au destin. Et il lui raconte un plan. Le temps passe et François s'aperçoit que c'est bientôt la date où Marie va accoucher. Il aimerait bien savoir où elle accouche et quel est le sexe de l'enfant. Cela l'énerve de ne pas le savoir. Mais pour le savoir, il faudrait savoir où elle va accoucher. Un soir, dans un bar, il en parle à Adrien, qui lui dit « Je vais me renseigner, je vais voir dans quelle clinique ou hôpital elle va aller. » Adrien se renseigne, téléphone dans les cliniques et hôpitaux. Il apprend que Marie accouche dans une clinique à Charbonnières. Il le dit à François, qui est furieux, furieux de ne pouvoir voir son enfant. Il broie du noir. Mais au fur et à mesure que les jours passent, François se pose des questions. Il se demande s'il pense vraiment à l'enfant pour le bien de l'enfant ou s'il pense à l'enfant pour se venger de Marie. Qu'est-ce que d'être père pour lui? Ce n'est pas facile à répondre à cette question, étant donné que pour un homme, ce n'est pas comme pour les femmes. La femme crée son enfant dans son ventre, tandis que l'homme devient père que lorsqu'il voit son enfant. Alors, que veut dire ce désir d'avoir un enfant, d'avoir son enfant? Le désir est-il vraiment pour l'enfant ou pour orgueil? Oui, par orgueil pour lui. Ce n'est pas facile à répondre à cette question. Et puis il se dit qu'il est jeune, très jeune. Et être père, cela ne signifie pas grand-chose pour lui. Mais malgré lui, il a besoin d'avoir près de lui son enfant, parce que c'est son enfant. Mais c'est quoi être père pour lui? À part la fierté d'avoir un enfant, est-ce qu'il y a quelque chose en plus? Peut-être est-ce la même chose chez les autres hommes. Et puis, il ne peut pas vraiment l'aimer, étant donné qu'il ne l'a pas vu. Mais lorsqu'il l'aura pris dans ses bras, ce ne sera pas la même chose. Il se sentira responsable de ce petit être fragile et sans défense. Il se sentira plus homme. Peut-être est-ce cela être un père. Il se dit qu'il pourra porter plainte contre la mère parce qu'elle ne veut pas qu'elle légalise sa paternité. Malheureusement, il y aura les féministes, etc. Ils seront tous contre lui. Les jours passent. François ne fait plus rien, ne travaille plus, ni n'étudie. Pendant ce temps, Adrien va voir sa sœur Amélie Villeneuve à la clinique qui vient d'accoucher. Il arrive à la clinique qui est la clinique de la Part-Dieu. Il retrouve dans sa chambre de sa sœur son beau-frère. Son beau-frère s'appelle Jules. Il a 30 ans. Il est grand, mince, cheveux châtains et a des lunettes. Il porte un costume gris et a l'air sévère. Il est maître de recherche en histoire de l'art. Amélie est au lit. Elle porte une chemise de nuit rose. Elle a 25 ans. Elle est grande, mince, blonde. Son visage est doux. Elle est étudiante en histoire. Ils sont surpris de le voir. Et Amélie lui demande « Tu n'es plus fâché ?» Adrien lui dit « J'ai jamais été fâché. Et la preuve, je suis venu te féliciter pour la naissance de ton petit. Et je lui ai amené un petit cadeau. » Il lui donne un paquet. Elle l'ouvre. À l'intérieur, il y a une petite boîte. Elle ouvre la boîte. Il y a dedans un bracelet en or pour le bébé. Elle est surprise. Elle l'embrasse. Merci, c'est très beau. Adrien lui dit. Tu feras mettre le nom du petit. Elle lui dit. Oui, merci. Il demande. Comment s'appelle-t-il ? Elle lui dit, Damien. C'est un très beau nom. Jules regarde le bracelet et remercie son beau-frère. Adrien reste un moment avec eux. Ils boivent du champagne et discutent un peu de ce qu'ils font. Amélie dit à Adrien, faudra venir nous voir. Adrien lui dit, oui, bien sûr. Puis, Adrien est parti. Il est parti satisfait. Lorsqu'il revoit François, il lui raconte sa visite qu'il a faite à la clinique. François lui dit, « Tu as de la chance d'avoir vu le bébé. Moi, non. » Adrien lui dit, « Tu sais, j'ai fait ça pour nous. Le bébé, je m'en fiche. » Et quelques jours plus tard, Jules Villeneuve va chercher sa femme et son bébé à la clinique pour les ramener chez eux, à Lyon, dans un immeuble ancien sur les quais du Rhône. Ils entrent chez eux et sont très heureux. Les jours passent. François, une nuit, a pris sa voiture et va où habitent les Villeneuve. Il descend de voiture en face de leur immeuble. Il regarde un papier où est marqué les numéros d'immatriculation des voitures. S'arrête devant une voiture Toyota blanche. La rue est déserte. Tremblant de peur, prend son téléphone portable. Après quelques manipulations, ce qui lui permet d'entrer dans la voiture pour se mettre à la place du chauffeur et ouvrir le capot où il y a le moteur de la voiture. En se disant que s'il est pris, ce sera la prison. Sur le moteur, il fait quelques manipulations avec une pince multiprise. Ensuite, ferme le capot, transpirant, et entre dans sa voiture et file. Thank you. Il file, file, file. Lendemain, samedi, en début de matinée, les Villeneuve avec leur bébé prennent leur voiture. Ils vont, comme toutes les fins de semaine, voir leur vieil oncle qui habite dans les monts du Lyonnais. Le trajet se passe tranquillement, le bébé est calme. Et puis le trajet n'est pas très long. Et ils arrivent en fin de matinée chez l'oncle. L'oncle habite une grande maison au fond d'un grand parc. C'est l'oncle, allez, héritage, qui aime beaucoup Marie. Il a une maison dans les monts du Lyonnais, au fond d'un grand parc. La maison est une vieille demeure du 19e siècle, très grande. Elle a 3 étages, un perron, etc. Les pièces sont meublées, Louis-Philippe. Soit sorti de voiture, il monte le perron pour sonner à la porte d'entrée de la maison. Il leur a ouvert un vieux domestique, grand, maigre, cheveux blancs, habillé en domestique. Il doit avoir dans les 70 ans. Il leur dit, « Monsieur vous attend au salon, veuillez me suivre. » Et ils suivent le domestique qui les fait monter un grand escalier de pierre pour les mener au premier étage. Il est fait entrer au salon. Le salon est une grande pièce avec porte-fenêtre, etc. Au milieu du salon se trouve Albert Humbert, 60 ans, grand, mince, cheveux blancs, visage sévère et autoritaire. Il porte un costume marine. Lorsqu'il les voit, il accourt à eux. Il leur dit, je suis heureux de pouvoir faire la connaissance du petit. Je n'ai pas pu aller à la clinique à cause de mes rhumatismes. Amélie lui montre le petit. L'oncle le regarde et dit, il est très joli. Merci Amélie. Cela fait très plaisir d'avoir dans la famille un aussi charmant petit poussin. Ils vont manger dans le parc. Le bébé est près d'eux. L'oncle dit, vous êtes mes héritiers. Et le petit aussi aura quelque chose plus tard. Oui. La journée se passe très bien, tout le monde est heureux. Puis en début de soirée, à midi, nous sommes obligés, c'est de partir. De partir pas trop tard, à cause du petit. L'oncle lui dit, je comprends. Et il les embrasse tous les trois. Sur le chemin du retour, alors que la voiture roule sur une route de montagne en lacet, Jules n'a plus le contrôle de sa voiture et la voiture file à vive allure. Il dit paniqué à sa femme, je sais pas ce qu'a la voiture, mais j'arrive plus à la contrôler. Amélie lui demande, que faut-il faire? Il lui dit, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Ils sont effrayés tous les deux. Jules a très peur. Mais il n'y arrive pas. Elle pleure et a très peur. Elle a surtout peur pour son voiture, pour son bébé. Oui, elle a surtout peur pour son bébé. C'est terrible. La voiture a raté un virage et est tombée dans un ravin. En tombant, la voiture prend feu. Ça s'est passé très vite. Des personnes ont vu les flammes et ont prévenu les pompiers. Ils sont arrivés malheureusement trop tard. Ils sont tous morts, même le bébé. Les gendarmes vont prévenir l'oncle qui les reçoit dans son salon, mais ne sait pas pourquoi ils sont venus. Vous désirez quelque chose, messieurs ? Un des gendarmes lui dit. Il y a eu un accident à quelques kilomètres de chez vous. Malheureusement, les passagers ont décédé. Nous avons relevé l'identité de ces personnes et nous avons appris qu'ils faisaient partie de votre famille. L'autre comprend et demande « Le bébé ?» Le gendarme lui dit « Malheureusement, lui aussi. Il est effondré. » La police a prévenu aussi Adrien, qui lui aussi semble effondré. La gendarmerie et la police continuent leur enquête et après avoir examiné la voiture et ont vu que la voiture a été trafiquée, ils font une enquête discrète et demandent à Adrien et à l'oncle l'emploi de leur temps. Adrien était chez des amis le jour de l'accident. La police fait encore des recherches et ne trouve rien. Alors, il donne l'autorisation d'inhumer le corps. Il donne l'autorisation à l'oncle. Mais l'enquête suit son cours. L'oncle, effondré, se demande ce qui a pu se passer. Le commissaire de police le convoque dans son bureau. C'est un homme grand, fort, chauve, dans les 50 ans, il porte un costume gris. Le bureau est un vieux bureau fait de meubles disparates. C'est très sombre. Le commissaire demande s'ils avaient des ennuis. Non. Et lui dit que l'enquête continue. François reste chez lui, apeuré et tremblant. Il se dit qu'il est un assassin. Lui, François, un assassin. Bien sûr, c'est la faute à Marie. Sans Marie, il n'aurait jamais tué personne. Il se sent coupable et terrifié d'avoir fait ce qu'il a fait. Bien sûr, en trafiquant la voiture, il ne s'est pas vraiment rendu compte de ce qu'il faisait. Mais maintenant, avec les cadavres, ce n'est pas la même chose. Il a tué un bébé. Quelle horreur! Il n'ose pas sortir de chez lui, à part de tout. Il a aussi honte de ce qu'il a fait. Il ne veut pas se confier à Adrien, qui lui a dit que pour sa sécurité, il fallait qu'il ne se voie surtout pas. Surtout tant que l'enquête n'est pas finie. Il se demande s'il ne devrait pas arrêter. Tant pis, il n'aura pas son petit, mais c'est peut-être une punition du ciel. Lui, Adrien, est tranquille. Il ne risque rien. Quelques jours plus tard, il y a l'enterrement au cimetière de la Guillotière. Il y a du monde pour l'enterrement. Adrien rencontre l'oncle lors de la cérémonie. Il semble effondré. Il va à Adrien et lui dit « Faut venir me voir. » Adrien est heureux. Quelques jours plus tard, il va voir son oncle. Son oncle le reçoit au salon. Une fois qu'ils sont assis l'un en face de l'autre, il lui dit «
Je regrette de t'avoir mal jugé. Je me suis renseigné sur toi et ton travail. »
Ils décident de se revoir. Adrien est heureux. Les jours passent. François est chez lui et en tous ses états. Il a honte et en même temps ne sait plus s'il doit continuer. Il se demande s'il ne se serait pas mieux de tout arrêter. Adrien l'invite au restaurant. François n'a pas tellement envie d'y aller, mais il y va tout de même. Je te remercie pour ce que tu as fait. François a honte et lui dit « J'aimerais tout arrêter. » Adrien lui dit « Je serais idiot étant donné que le plus dur a été fait. » Je m'unis tous les deux et pour toujours. François a peur qu'Adrien le dénonce pour ce qu'il a fait. Alors il décide de continuer son plan plus tôt que le plan d'Adrien. Pour le moment, il ne sait plus s'il aime encore son enfant, cet amour qui le pousse à faire des horreurs. Et puis, il est tellement pris par cette histoire. Les jours passent. Un jour, François entre dans un café, un grand café de la rue de la République. Vient à lui une femme d'à peu près 30 ans, visage avenant et un peu forte. Elle porte des lunettes et est habillée d'une robe noire toute simple. Lorsqu'il la voit venir, il se lève, pointe, et lui demande « Vous êtes Julien Villeneuve ?» Point d'interrogation. « Oui, mais Jules, pas Julien. » Point. Elle lui dit « Je suis la nourrice et je suis envoyée par le docteur Imbert. Je m'appelle Albertine Dupont. Point. Il la fait asseoir. Vous désirez boire quelque chose? Elle lui dit, un café, merci. Il fait signe à un serveur pour apporter un café. Un quart d'heure plus tard, ils boivent tous les deux et elle lui dit, j'ai eu un enfant et malheureusement il est mort 2 jours après sa naissance. J'ai encore du lait. Quel âge a votre enfant? Il lui dit, il y a 2 mois et sa mère est morte. Malheureusement, je suis obligé de quitter Lyon pour aller à Paris à cause de mon travail. Elle lui dit que ça ne la gêne pas. Et ils font mieux connaissance. Puis, il lui dit, vous serez convoqué dans quelques jours. Pour ce qui est du salaire, c'est le docteur Imbert qui s'en occupera. Lorsque je vous donnerai la date, il faudra vous préparer. Votre départ doit se préparer le plus vite possible. Bien, monsieur. Deux mois plus tard, après l'enterrement, François va à la mairie du 6e arrondissement de Lyon pour demander un acte de naissance. Il a très peur, mais cache sa peur pour que l'employé de mairie ne le voit pas et ne soit pas soupçonné. Une femme dans les 40 ans le reçoit. Elle est grande, sèche, les cheveux gris, l'air revêche et porte une robe grise. Elle lui demande acte de naissance de qui? Il lui dit que c'est pour Villeneuve Jules et Damien son fils. Elle lui demande pourquoi voulez-vous ces 2 actes de naissance? C'est parce que j'ai perdu mes papiers et ceux de mon fils. Elle va chercher les 2 actes de naissance et en fait des photocopies. Elle les lui donne. Il regarde les 2 actes de naissance où ce n'est pas marqué encore le décès des personnes. Il va au guichet suivant pour se faire une carte d'identité. La personne qui est au guichet est un homme petit, chauve dans les 50 ans. Il est en blouse grise. Il lui demande sa carte d'identité. Il lui dit qu'on lui a volé mais qu'il apporte les deux actes de naissance. Alors, on accepte de lui faire sa carte d'identité. Puis va la sécurité sociale de Lyon demander une carte de sécurité sociale à lui et son enfant. Là, c'est un peu plus compliqué. La sécurité sociale risque de savoir qu'il demande une carte de sécurité sociale avec le nom de personnes qui ont décédé, parce que la sécurité sociale peut le savoir. Il a encore plus peur qu'à la mairie. Mais il tombe sur une femme socialiste, humaniste, qui aide les étrangers sans papier, etc. Alors elle accepte de lui faire sa carte de sécurité sociale et d'inscrire le petit sans histoire. Elle sait que ce n'est pas légal, mais à cause de son militantisme, elle le fait. Une fois que ceci est fait, qu'il a la nourrice et les papiers, avec Adrien, ils vont à Paris. Et à Paris, Adrien cherche un logement pour François. Adrien a fait la connaissance d'un couple d'amis qui vont quitter Paris et qui veulent louer leur maison avec de beaux meubles Louis XV. Il leur présente son ami, etc. C'est avenue Malesherbes, une maison au fond d'une cour derrière un immeuble. C'est Adrien qui va payer le loyer tant qu'il n'aura pas de travail. Le logement est prêt. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir pour le travail. François fait des études de physique. Grâce à Adrien, François va se présenter pour une place dans un laboratoire de la banlieue parisienne, laboratoire Silver. Adrien, qui connaît très bien le patron de ce laboratoire, lui téléphone car il aimerait qu'il embauche un de ses amis. Cela lui fait très plaisir. Comme le patron Henri Silver a été sauvé par Adrien lorsqu'il était en voyage à Lyon d'une appendicite, il accepte de le recevoir. De recevoir son protégé avec Adrien. Ils vont tous les deux au rendez-vous à l'entreprise qui se trouve près de Versailles. Ils ont pris un taxi pour y aller. François dit à Adrien, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Adrien lui dit, tu apprendras. L'entreprise se trouve dans une petite rue, un peu à l'écart. C'est une grande bâtisse blanche. Devant, il y a un parking. Ils sont entrés dans l'entreprise par une double porte battante. L'intérieur est moderne et clair. Ils vont à l'accueil où se trouve une jeune fille en blouse blanche, rousse dans les 22 ans. Elle leur demande, « Vous désirez, messieurs ?» Adrien lui dit, « Mademoiselle, nous avons rendez-vous à 10h avec votre patron. » Elle lui demande, « Vous êtes ?» Il lui dit, « Je suis Adrien Imbert et monsieur Jules Villeneuve. » Elle regarde sur son ordinateur. Et voit le rendez-vous. Alors elle fait le numéro. Allô? C'est le rendez-vous de 10h. Je vous le fais monter? Bien, monsieur. Elle dit à Adrien qu'ils doivent prendre l'ascenseur et monter jusqu'au dernier étage. C'est ce qu'ils font. Arrivés au dernier étage, ils sont sortis de l'ascenseur et se trouvent dans un grand couloir. Ils voient une porte battante. Ils y vont et sonnent à la porte. Un voyant vert s'allume. Ils entrent. Un homme est à son bureau. Il est grand, fort, cheveux gris et l'air sympathique. Il porte un costume marine, se soulève et leur dit « Approchez-vous, je vous en prie, et venez vous asseoir. » Ils vont... Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, dodécaphonique, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.